Après une brève mise en perspective, je vous parlerai des disciplines, hein, des différentes disciplines scientifiques hein, qui ont été amenées soit à se développer, soit à naître dans leur contenu. Et puis, je ne sais pas, on pourra avoir un peu une réflexion en commun sur différents aspects techniques, sociologiques de la chose. Et puis, voir un petit peu comment, au-delà, en conclusion, ça s'est de nouveau modifié et ce que l'on peut en tirer comme idée concernant le développement des sciences elles-mêmes. Hein. Du point de vue des sciences, l'expression « la science triomphante », je l'ai trouvée chez un poète allemand, mais d'une façon péjorative, hein, qui vivait justement à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, qui s'appelle Novalis, et qui attaquait en quelque sorte le concept de science triomphante au nom des valeurs poétiques ou morales qui lui semblaient avoir été oubliées. Donc voilà, un pôle, c'est Novalis, la science triomphante, c'est grave. À l'autre pôle, à la fin donc du 19e siècle et au début du 20e, il y a un physicien qui s'appelle Thomson, qui est britannique, qui sera anobli par la reine sous le nom de Lord Kelvin, et qui dit, en substance, je vous lirai la citation tout à l'heure, ben voilà, la physique est terminée. Il dit ça à un de ses étudiants qui arrive. La physique est terminée, c'est pas intéressant, vous lancez pas dans la physique, il n'y a plus que quelques décimales à rajouter à quelques constantes, et puis c'est fini. Or, ce sont justement ces décimales et ces constantes qui vont entraîner la révolution scientifique du début du XXe siècle. C'est-à-dire la physique quantique, la relativité générale, etc. Donc, on en dira quelques mots également à la fin, dans l'esprit, non pas que ça a détruit tout ce qui se passait avant, mais bien au contraire que tout ce qui a été fait avant a servi de socle à la révolution ultérieure, et que donc il y a un processus dans le domaine du développement des sciences qui a un caractère cumulatif, en ce sens que même quand certaines théories sont dépassées, eh bien, elle continue à fonctionner. D'ailleurs, quand on envoie des satellites, des fusées, ben, on utilise les lois de Newton actuellement, qui, elles, datent du XVIIe siècle. Hein. Au fond, j'aimerais citer au départ Laplace, parce que lui, il va être le porteur, en quelque sorte, de l'idéal scientifique, Laplace, donc, 1749-1827, hein, et qui dit, si une intelligence quasiment omnisciente, connaissait toutes les conditions initiales d'un système mécanique, donc de l'univers, alors il pourrait prédire tout l'avenir et tout le futur, parce que nous connaissons les lois d'évolution de l'univers. Hein, ce que Newton et tout ça, il a donc développé ce point de vue. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de physique laplacienne pour le 19e siècle, et il faudra attendre Poincaré au début du 20e siècle pour se rendre compte que cet idéal est au fond illusoire. Pourquoi ? Parce qu'il existe des phénomènes qui ne sont pas des phénomènes aussi réguliers que Laplace le pensait, et on parle de chaos. Voilà. Alors, autre aspect, toujours pour la mise en perspective, donc là, on s'est mis entre Laplace et Poincaré, ben, on va se mettre aussi entre le 18e et le 20e siècle, encore une fois. Au 18e siècle, il y a une entreprise extraordinaire qui est lancée par des philosophes qui sont aussi des scientifiques. C'est-à-dire que philosophe et scientifique, ça va ensemble. Ils appellent ça la philosophie naturelle. C'est l'entreprise encyclopédique, bien entendu. Bon, alors il y a des noms comme d'Alembert, tout ça, mais il y a aussi d'autres noms comme Lavoisier, Carnot. Bon, on pourra rentrer plus en détail si, au cours de la discussion. Puis il y a la Révolution qui a eu lieu. Laplace, immédiatement après la Révolution, qui présente d'ailleurs son système du monde à Napoléon. Petite anecdote, Napoléon lui demande... Bah, et Dieu dans tout ça. Et Laplace répond, bah, j'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Donc, le XXe siècle, ça va être de nouveau
Mais sur la base, cette fois, à l'inverse, ce ne sont pas des philosophes qui sont des scientifiques, ce sont des scientifiques qui essayent de réfléchir. C'est des gens comme Einstein, Bohr, De Broglie, Schrödinger, qui essayent de réfléchir à ce que le contenu des sciences qu'ils fabriquent apporte à la réflexion philosophique, et puis à un point de vue, disons, concernant l'intelligence humaine, hein, les lois de la pensée, comme on dit à l'époque, à la nuit. Et dans l'entre-deux, le 19e siècle est caractérisé par le fait que, c'est vrai, il y a des philosophes, hein, il y a Auguste Comte, mais ce qui marque la dualité entre science et quelque chose, c'est plutôt la technique, c'est-à-dire que c'est la révolution industrielle, la mise en œuvre de ce que les sciences sont en train d'apporter dans le domaine de la technicité. Et au fond, ceux qui chantent tout ça, c'est moins des philosophes, Auguste Comte mis à part, tout ça, que des poètes comme Victor Hugo, que des romanciers comme Jules Verne, comme Robida, des gens qui mettent en scène en quelque sorte sur le plan un peu plus émotionnel ce qui est fait sur le plan plus rationnel avec la technique et la science. Voilà, tout ça pour situer, et dans l'entre-deux, on a évidemment tout le développement des disciplines, et c'est de ça dont je vais parler maintenant, du développement des différentes disciplines qui ont amené à ces points de vue au cours du 19e siècle. Dans les disciplines que je compte aborder de façon un petit peu plus fouillée, il y a bien sûr la physique, il y aura évidemment les mathématiques, la logique, la chimie, je citerai simplement la biologie, et puis quelques mots aussi sur la naissance de certaines disciplines, que sont la sociologie, la psychologie. Mais disons, le gros morceau, ça va être autour des questions de physique et de chimie, bien entendu. Ça va de soi, parce qu'avec le dialogue, avec la technique, ça va jouer un rôle très important. Alors la physique, il va y avoir un processus très intéressant, qui va être un processus d'unification entre ce qu'était l'électricité, ce qu'était le magnétisme et ce qu'était l'optique. Ce processus d'unification est très bien décrit d'ailleurs par quelqu'un qui est ici présent, dans un document qui s'appelle « La physique telle que je la vois, l'exemple de la découverte, construction de l'électromagnétisme ». Et à cette occasion, elle m'a fait passer un document qui est un document qui avait été établi par, disons, les idées de Feynman, qui est un physicien du XXe siècle, sur lequel il se trouve que tout l'électromagnétisme se trouve représenté par quelques équations, et c'est les équations de Maxwell. Il a rajouté dans cet encadré quelques équations concernant la mécanique, et on a quasiment toute la physique rationnelle du XIXe siècle qui se trouve rassemblée et condensée dans ces quelques équations. Les équations de Maxwell datent du milieu du XIXe siècle, de 1855. Au fond, qu'est-ce qui apparaît, c'est que voilà, on va penser les choses en termes de rapport entre des sources. Alors, ça peut être des sources électriques, des sources magnétiques, des sources massives dans le cadre de la gravitation. Sources d'un côté et champs de l'autre. Les sources sont les sources de champs. Et au fond, l'interaction qui se produit, c'est des interactions portées par les champs entre les sources. Entre deux électrons, par exemple, ou deux charges électriques, quand on ne sait pas encore ce que sont les électrons, hein, ou entre deux masses, comme les planètes, par exemple, c'est le champ de gravitation. Donc, l'idée de champ avance dans le domaine de la physique, et au fond, ce dont parlent les équations de Maxwell, c'est comment se comporte le champ électromagnétique, précisément, c'est-à-dire la façon dont se propagent les effets à partir de certaines causes.
Donc, champ, c'est un concept qui est né à ce moment-là, dans cette époque ?
C'est un terme qui a été utilisé avant, mais disons dans sa conceptualisation actuelle, oui, c'est là que ça apparaît, hein. Bon, il y avait déjà le champ de gravitation de Newton qui était apparu au XVIIe siècle, mais qui avait ceci de particulier, c'est qu'il était censé se propager à une vitesse infinie, avec des effets simultanés aux causes. Alors que le champ en tant que propagation cause-effet apparaît au 19e siècle. Avant, il y avait un champ qui était un champ partout simultané, il n'y avait pas de limitation. Et d'ailleurs, ça posait un problème philosophique très important. Comment est-il possible que des effets puissent se propager comme ça instantanément ? C'est pour ça que ça fait un lien avec l'optique, parce que, au fond, la vitesse de propagation du champ n'est autre que la vitesse de la lumière. Ce sont des noms comme Oersted, comme Ampère, comme Faraday, comme Hertz, comme Fresnel pour l'optique, et bien entendu Maxwell, bon, tous ces gens, l'électricité, le magnétisme, l'optique et l'électromagnétisme. Alors, autre aspect, toujours de la physique, c'est le développement également de l'astronomie. Il y a un développement assez considérable à l'époque. Le tour de force de Le Verrier et d'Adams, qui, à partir des équations du cours des planètes, hein, des équations de Newton, prévoit l'existence d'une planète qui est ensuite effectivement observée. Le Verrier, il y a aussi Adams qui a été co-découvreur de ça à l'époque. Bon, il y a des gens aussi qui s'intéressent au système planétaire, que vous, dont vous connaissez les noms, de Herschel, de Schiaparelli. En ce moment, c'est intéressant quand même, puisqu'on parle de Mars, hein, c'est lui qui a vu les canaux, entre guillemets, sur Mars, enfin, disons des structures importantes. Alors, il y a évidemment l'étude des étoiles, le paradoxe d'Olbers, le noir de la nuit, comment se fait-il qu'il fasse noir la nuit alors qu'il y a des étoiles partout à l'infini, c'est lui. Il y a la mécanique céleste qui se développe avec Coriolis. Et puis, il y a l'identification comme corps céleste des météorites avec leur étude, avec Biot. Donc ça, c'est du côté de l'astronomie. Je fais un peu catalogue, mais c'est un peu délibéré. C'est pour voir ce processus d'accumulation qui s'effectue au cours de cette période avec cette volonté de rationaliser tout ce qui est de l'ordre de l'observation, de le mathématiser, de faire en sorte que ce soit introduit dans des catégories conceptuelles mathématiques, mais ces catégories conceptuelles mathématiques sont également prédictives. C'est grâce à ça que Le Verrier est capable de prévoir l'existence d'une planète. Alors, bien entendu, il y a un troisième domaine, mais alors, on en parle moins, mais qui est très important, je pense à la thermodynamique. Il y a, à partir des théories de la chaleur, Carnot, Clausius et compagnie, Joule, Fourier, tout un développement de la thermodynamique. Alors, la thermodynamique a ceci de particulier, c'est qu'elle est au départ très phénoménologique, comme on dit. On décrit les phénomènes et on n'en voit pas très très bien la source rationnelle, au sens où on voit la source rationnelle de l'électromagnétisme des équations de Maxwell ou de la gravitation des équations de Newton ou des choses comme ça. Non, là, on s'intéresse à des flux de chaleur, des flux de matière, à quelque chose qui est, au fond, relativement à notre échelle. Et c'est là que commencent à sortir des concepts qui vont jouer un rôle tout à fait déterminant, le concept d'énergie. Alors, le concept d'énergie, ça renvoie à quoi ? À des quantités qui sont conservées au cours des processus. Donc, ça, c'est très important. Et puis, le concept d'entropie. Le concept d'entropie qui, lui, est associé non plus à la conservation de quantités, mais au sens d'évolution d'un processus. Comment se fait-il que la chaleur passe du corps chaud au corps froid ? Pourquoi c'est pas le contraire ? On va théoriser ça à partir du concept d'entropie. Inutile de dire, évidemment, que tout ça est essentiel pour la mise au point de toutes les machines à vapeur qui vont être un élément tout à fait important, ne serait-ce que pour les transports au cours du 19e siècle. Hein. Les questions concernant la température commencent à être un peu élucidées. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que l'interrogation va être « mais d'où ça vient, ça ?» Et à ce moment-là, on va avoir recours à l'hypothèse atomique. Il existe des atomes, il existe des molécules. Et au fond, va va se développer une discipline tout à fait nouvelle à ce moment-là, c'est la mécanique statistique, qui va essayer de rendre compte de quantités comme la température, comme l'énergie, comme des quantités moyennes de propriétés d'atomes qui s'agitent, qui s'entrechoquent. Par exemple, la température, c'est une moyenne de l'énergie cinétique des atomes. Alors, les noms importants, évidemment, c'est Gibbs et Boltzmann dans ces domaines-là. Boltzmann, d'ailleurs, qui tournera mal en ce sens qu'il sera très attaqué sur ses hypothèses atomiques, il en deviendra quasiment fou. Mais encore maintenant, on s'appuie sur des équations de transport qui sont des équations de Boltzmann. Et du coup, toute la physique statistique va se développer en rapport avec la thermodynamique. Les deux vont ensemble. D'autant plus que la thermodynamique servira en grande partie de support pour la compréhension des mécanismes des réactions chimiques. Alors, ça c'est, disons, en gros, un panorama en ce qui concerne la physique. Un petit panorama rapide en ce qui concerne les mathématiques. Les grands noms importants, c'est les noms de Galois, qui est à l'origine de la théorie des groupes. Là encore, il s'agit de sortir des invariants. Il y a aussi, alors, Riemann, lui a une prescience dans les années 1850 de ce que sera plus tard la théorie de la relativité, à savoir que c'est l'existence d'interactions entre corps qui modèle en quelque sorte la structure de l'espace. C'est le moment où il y a le développement de ce que Frege appelait un délire, à savoir les géométries non euclidiennes. Et Riemann développe justement une géométrie qui s'appelle la géométrie riemannienne, justement, qui va être la géométrie support ultérieurement de la relativité générale au XXe siècle. Ça, c'est du côté de la géométrie. Mais il y a aussi, du côté de l'analyse, d'autres considérations. C'est le moment où on commence à apprivoiser l'idée d'infini. Avant, l'infini, c'était quelque chose d'inaccessible. C'était quelque chose qui était de l'ordre du divin, à la limite. Là, Cantor fait la théorie du transfini et il catégorise les différents infinis les uns par rapport aux autres. Et de façon rigoureuse, mathématique. À tel point que Hilbert dira, à propos des fondements des mathématiques, on pourra dire tout ce qu'on voudra, on ne nous sortira pas du paradis que Cantor a ouvert pour nous. Cantor, 1845-1918, Galois, 1811-1832. Il est mort en duel. Il a été en prison parce que c'était un républicain sous les années 1830. Il a milité fortement. Gatti met en scène le couteau de Galois, avec lequel il voulait s'en prendre à la monarchie. Galois est un révolutionnaire républicain de l'époque. Alors, Hilbert, évidemment, c'est un très grand nom des mathématiques. C'est lui qui s'est posé la question des fondements. Son programme a été un programme qui a irrigué les mathématiques du XXe siècle. C'est lui qui est à l'origine de la volonté de démontrer que les mathématiques étaient cohérentes. Alors, évidemment, ça va être subverti dans les années 30 par un grand mathématicien, c'est Gödel. Gödel va démontrer que le programme de Hilbert ne peut pas être rempli. Mais le programme de Hilbert, du point de vue de la cohérence des mathématiques, ce programme de Hilbert va engendrer dans sa recherche de démonstration tout ce qui va être l'arithmétisation des mathématiques. Et cette arithmétisation se manifeste techniquement aujourd'hui à travers l'informatique. L'informatique s'ancre dans une représentation arithmétique du monde et non pas géométrique. Les mathématiques vont jouer un rôle très important dans les représentations.
On peut te questionner sur la cohérence, c'est une idée bizarre.
La cohérence des mathématiques telle que la voyait Hilbert, telle que voyaient ceux qui ont réfléchi sur les fondements, c'est démontrer que les mathématiques sont non contradictoires. Alors, ce que Gödel a démontré, c'est qu'on ne peut pas démontrer ça et que si on veut avoir une théorie cohérente, il faut rajouter un axiome dont on ne peut pas démontrer qu'il est cohérent avec les autres. Ce sera exactement la même chose que ce qu'on trouvera avec la machine de Turing, qui sert d'exemple pour l'informatique, qui montrera qu'on ne peut pas démontrer un théorème concernant l'arrêt d'un programme. Il y aura équivalence entre le théorème de Gödel concernant l'incomplétude, comme on dit des mathématiques, et les problèmes d'incomplétude concernant l'arrêt des programmes informatiques dans le cas de programmes infinitaires. Hein. Ça me permet de faire le lien avec les recherches logiques, cette fois, proprement logiques, qui ont eu lieu au cours du 19e siècle. Alors vous connaissez tous le nom de Boole, les algèbres booléennes, etc. Boole n'avait pas d'autre ambition que de découvrir les lois de la pensée. Ce qu'il proposait avec son système booléen, vous savez que c'est le système qui va servir aussi pour l'informatique, comme des 0 et des 1. Les structures logiques, c'est les portes logiques qui serviront plus tard dans ce domaine-là. Donc il met sur pied toute la représentation qu'on appellera booléenne en logique. Il y aura Frege, qui est un très grand logicien, mais qui n'a jamais digéré les géométries non euclidiennes, qui justement, pour réagir contre ça, a essayé de mettre au point une logique fondée sur la démonstration. Il va être un des pères de ce qu'on appellera plus tard le tournant linguistique, hein, qui jouera un rôle important. Et évidemment, il y aura ce que j'ai raconté concernant Hilbert et Gödel. Maintenant, autre grand corps de discipline, c'est la chimie. N'oublions pas que Liebig était un chimiste du 19e siècle. Alors, on distingue en général entre chimie minérale et chimie organique. La chimie minérale, les grands noms, évidemment, c'est Berthelot. Je citerai tout à l'heure quelque chose de Berthelot dans le cadre de ce qu'on appellera plus tard l'idéologie scientiste. Hein. Il y a Avogadro qui compte les atomes, si j'ose dire. Il y a Berthollet qui étudie les équilibres chimiques. Il y a Gay-Lussac. Il y a aussi quelqu'un de très très important, c'est Mendeleïev, qui établit son tableau des éléments physico-chimiques en 1871. Et le tableau de Mendeleïev va servir de base à une infinité de choses. Et c'est à ce moment-là que, justement, vont se développer les théories de la valence, à la valence chimique, et le lien avec les électrons. Tout ça va être concomitant. En chimie organique, on aura par exemple des noms comme celui de Chevreul, qui s'intéresse à la chimie des corps gras, qui est dès le début du 19e siècle. Et puis alors j'ai cité Liebig, Wöhler et tout ça. On découvrira aussi les gaz rares, tout à fait à la fin du 19e siècle. Ces gaz rares particuliers, ce sera Rayleigh qui découvrira ça. Alors je cite pour mémoire, puisqu'on en parlera plus tard de la biologie et tout ça, quand même c'est le siècle des lois de Mendel, hein, c'est-à-dire de tout ce qui va être la source de la génétique. Donc Mendel était un moine qui a vécu de 1822 à 1884. C'est également le siècle de Darwin, toute la théorie de l'évolution. Alors, tu parlais de géologie, Darwin a été influencé par les idées de Lyell, qui est également géologue du 19e siècle, qui voyait dans les structures rocheuses un processus d'évolution et non pas du tout une situation statique, qui aurait été, à un moment donné, une catastrophe, crac, et puis ça bouge plus. Il avait une vision évolutive. Et Darwin a été très influencé, et cette théorie d'évolution des espèces s'appuiera sur ces idées-là. Il y aura aussi un effet un peu particulier en biologie. Le cousin de Darwin s'appelait Galton. Et Galton, à la fois, avait un côté biologiste et un côté sociologiste. Il va être à l'origine d'une théorie qui, elle aussi, aura des effets au XXe siècle, mais alors, pour le coup, des effets d'une très toute autre nature, c'est l'eugénisme. À savoir qu'on peut améliorer l'espèce. Lui n'était pas particulièrement violent, hein, mais enfin, il pensait qu'il fallait vraiment améliorer l'espèce en éliminant ceux qui pouvaient être à l'origine de tares ou de choses comme ça.
Il a poussé le curseur de la sélection naturelle un petit peu plus loin de Darwin.
Voilà, voilà, ça on peut le dire. Évidemment, on doit quand même mentionner la naissance de la sociologie scientifique avec Durkheim. Hein. N'oublions pas aussi qu'il y aura le développement de toute une école de psychologie avec Binet. Binet, 1857-1911, la psychiatrie
c'est
aussi.
Tout à la fin.
Et puis il y a la neurologie qui va se développer avec Broca, Charcot, Charcot qui inspirera beaucoup Freud hein, plus tard, Babinski, etc., etc. Donc il y a tout un corpus qui se développe en résonnant ces uns avec les autres, avec l'idée d'une rationalité, certes, mais aussi une vision très mécaniste des choses, hein, il faut bien s'en rendre compte. Cette idée mécaniste des choses va être, bien entendu, alimentée par les succès considérables des développements techniques. C'est l'âge industriel, alors il est contemporain à la fois de réussites matérielles spectaculaires et de catastrophes sociales. D'une part, l'âge industriel engendre l'exode rural, il faut bien s'en rendre compte, avec l'augmentation considérable de l'urbanisation. On peut citer quelques grandes dates correspondant au développement des techniques liées au développement scientifique. En 1815, par exemple, l'introduction du gaz d'éclairage. C'est assez positif, me semble-t-il. Mais d'un autre côté, du coup, c'est une mauvaise nouvelle pour les ouvriers, parce qu'ils vont devoir travailler la nuit. C'est le début du travail de nuit. En 1825, on a la première locomotive opératoire de Stephenson. Tous les transports qui vont être associés, et donc les rapprochements entre les lieux qui vont être rendus possibles, ce qui est une bonne chose, bien entendu. En 1867, mise au point de la première dynamo. Cette fois, c'est l'électricité qui est concernée. En 1882, c'est la première centrale électrique qui est mise au point. Et à la fin du 19e siècle, on voit l'électricité remplacer le gaz dans les villes pour l'éclairage. Mais, en parallèle, il y a l'aspect social dont je parlais, que j'ai évoqué là avec l'exode rural. Au début du 19e siècle, il y a des usines. Les enfants vont en usine à partir de l'âge de 5 ans. En 1841, il faut une loi pour interdire de faire travailler les enfants de 8 à 12 ans plus de 8 heures par jour. Et bien entendu, il y a la contrepartie de cette misère qui se développe et de cette aliénation, à savoir les penseurs du changement social et la formation des associations. C'est la période où on forme les syndicats. C'est la période où se mettent en place des associations qui ont pour but l'éducation, l'émancipation, etc., etc. Hein, il faut l'évoquer au moins dans ce lieu, en tout cas. Et il y a les penseurs du changement social. Alors Proudhon, qui vit de 1809 à 1865, il a été précédé par Fourier. Il y a Owen en Angleterre, bien sûr, et puis il y aura Marx et Engels qui voudraient faire ce qu'ils appellent du socialisme scientifique. À tel point d'ailleurs que Engels va essayer de trouver les lois de la dialectique du changement social, au même titre que les lois de la dialectique de la physique. Le manifeste communiste date de 1848. Donc, il faut s'en rendre compte. Et puis, bien sûr, c'est mis en scène par des romanciers. Alors, l'aspect technique proprement dit, j'ai cité Jules Verne, évidemment, Robida, évidemment. Mais sur le plan social, il y a Zola, bien sûr. Lui, il vit de 1840 à 1902. Ça suscite donc quelques réflexions. Se développe, du point de vue idéologique cette fois, ce qu'on a appelé, ce que Saint-Simon a appelé au départ la religion du progrès. Saint-Simon vivait à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Il est mort en 1825. Ça a développé le positivisme de Comte, évidemment du point de vue philosophique. Et bien entendu le scientisme, comme idéologie, à savoir que tout pouvait être résolu. avec la science. Hein. Berthelot disait à ce moment-là, le monde est désormais sans mystère. N'oublions pas le personnage de Monsieur Homais hein, dans Flaubert, Madame Bovary. Hein. Je vais vous citer quelques passages qui ont été écrits par certains. À la fin du XIXe siècle, de grands noms comme Lord Kelvin ou Auguste Comte en France proclamaient que tout avait été découvert en physique. Et, citation, qu'il n'en resterait pour les générations futures que quelques chiffres après la virgule. C'est Lord Kelvin, c'est quelques chiffres après la virgule, c'est ce qui a tout changé précisément. Hein. Ensuite, un passage écrit par Ernest Renan dans L'avenir de la science. L'avenir de la science est en 1848. Hein. Il dit, je ne connais qu'un seul résultat à la science, c'est de résoudre l'énigme. C'est de dire définitivement à l'homme le mot des choses, c'est de l'expliquer à lui-même, c'est de lui donner, au nom de la seule autorité légitime qui est la nature humaine tout entière, le symbole que les religions lui donnaient tout fait et qu'il ne peut plus accepter. C'est bien condensé ça. Et puis en plus, bon, les philosophes sont un peu bousculés. Mais il y aura un philosophe qui est né, qui lui va relever, comme le dit l'auteur, va relever le défi que la science triomphante avait adressé à la philosophie. Et ce philosophe, c'est Husserl. Avec la phénoménologie, l'auteur dit, grâce à Husserl, la philosophie n'a pas plus été réduite au silence par un positiviste qui voulait ne chercher la vérité que du côté des sciences. Husserl a montré que l'ambition du philosophe, qui est de comprendre l'ensemble des productions de l'esprit, est toujours d'actualité. Il faut réhabiliter le vécu et le concret sans renoncer pour autant à la rigueur rationnelle. Le scientisme rabattait tout du côté de la production scientifique, conçue comme loi de nécessité. Et au fond, ce qui est réhabilité avec cette idée, les lois de l'intentionnalité avec Husserl, et puis les concepts existentiels de liberté, de choses comme ça, qui ne relèvent pas directement du scientifique. Alors, je vais conclure maintenant rapidement, en essayant de sortir quelques traits qui me paraissent importants en ce qui concerne le développement des sciences du XIXe siècle par rapport au XVIIIe et du XXe. D'une part, on peut argumenter en disant que bien que des théories viennent recouvrir des théories antérieures, la science, contrairement à d'autres approches, progresse en quelque sorte, pour être un peu provocateur, de vérité en vérité. C'est-à-dire que c'est pas parce que la théorie de Newton introduit un champ instantané à distance qu'elle est fausse. Elle est vraie dans certains domaines. Et lorsque on a ensuite des propagations de champs à la Maxwell ou à l'Einstein, eh bien, on précise quelque chose, on le dépasse, mais on ne l'abolit pas. C'est donc le caractère cumulatif du scientifique qui prend un rôle important et qu'on ne retrouve pas malheureusement dans les domaines éthiques, politiques, dans les comportements humains, où ça grimpe, ça progresse, on a un peu de démocratie, puis après ça on a de la barbarie, et puis, hein, bon, c'est... En fait, on a affaire à quelque chose que tu appelais un remodelage sans destruction. Alors, si on regarde de façon un peu approfondie, c'est que le processus de connaissance scientifique est un processus de construction d'objectivité. C'est pas une ontologie. On ne dit pas ce que sont les choses. On se contente pas non plus de bavarder, d'avoir l'opinion. On construit une objectivité. Au départ, ce sont les idées de Kant, fin du XVIIIe, et ce sera la grande idée de Husserl au XXe siècle, précisément, qui est dans la lignée kantienne de ce point de vue-là. Autrement dit, c'est la prévalence d'une certaine notion de la rationalité qui fait que on ne s'interroge pas vraiment sur l'essence même des choses, qu'on ne s'intéresse pas non plus au simple langage, mais qu'on construit quelque chose qui peut être partagé par ce qu'on appellera le consensus scientifique, c'est-à-dire par l'assemblée intersubjective de tous ceux qui s'intéressent à la chose ou qui ont envie d'y aller voir. Et de ce point de vue-là, la construction d'objectivité permet de construire un consensus que ne permet pas de construire simplement l'opinion ou une idée de l'absoluité des choses. Voilà, et je termine là-dessus.
À propos de tous les noms que vous avez cités, à un moment donné, comment sont-ils financés? Quand je vais au Jardin des Plantes, je vois tous ces bâtiments, ils sont du 19e, j'imagine, le muséum est du 19e. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'on fasse des monuments à la gloire de la science? Et comment ont été financés tous ces hommes? Parce que c'est plus des condensés, là.
Il y a eu deux grands départs. Un premier grand départ qui a été lancé par la Convention.
Il y a cet élan de rationalité lié aux philosophes du XVIIe siècle,
tout ça, qui fait que la connaissance est devenue un enjeu de société, un enjeu culturel, un enjeu politique. Et puis il y a le fait qu'en parallèle vont se développer des structures très spéciales pour l'époque qui sont les fondations. Il va y avoir, on peut dire des mécènes, qui sont justement mobilisés par cet idéal rationnel et qui vont contribuer à financer en partie différents aspects. Et du coup, il va y avoir simultanément développement des universités, développement des grandes écoles. L'école polytechnique, l'école normale, sont des écoles qui ont été créées par la Convention. Hein. C'est, bon, il va y avoir des développements dans le domaine médical. Alors, évidemment, c'est relativement plus facile parce que le milieu de la recherche et de l'université est très restreint. Jules Ferry, c'est du papier à la fin hein, du 19e siècle. C'est dans des secteur assez limité. C'est pour ça qu'on peut donner beaucoup de noms, d'ailleurs. Parce que ces noms, bien qu'ils soient nombreux, c'est presque rien par rapport à l'ensemble de la société. Maintenant, le travail de recherche, le travail d'élaboration de connaissances est devenu infiniment plus collectif qu'il l'était. Du coup, aussi, beaucoup plus anonyme, de fait, même s'il y a des noms qui sortent, bien entendu. Donc ça, c'est pour essayer, non pas vraiment de répondre, mais de commenter ce que...
Il y avait des mécènes au
19e siècle. Oui, bien sûr.
Mais des mécènes qui avaient fait fortune dans l'industrie.
Regarde Nobel, c'est...
Ça, c'est la fin.
C'est la fin du 19e siècle. Hein, c'est...
Comment ?
Solvay, oui, les congrès Solvay.
Est-ce que tu sais, est-ce que tu penses que tout ce monde-là faisait un peu réseau? Parce que c'est quand même des contemporains, bien sûr, il y a un siècle, mais... Est-ce qu'ils se rencontraient? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y avait des trucs, tu crois? Ou des idées fortes que soutient toujours Jacqueline, mais...
Ah oui, mais ils se combattaient aussi très fort, hein.
Ils discutaient, quoi.
Oui, ils discutaient fort, hein.
Si on pense aux principes de créativité, finalement, qui ont inspiré les chercheurs, à ce moment-là, et à leur heuristique, et si on plonge dans l'irrationnel de cette imagination-là, il semblerait que tout le tissu de métaphores qui a été triomphant au XIXe siècle était autour des métaphores mécanistes, pour après voir leur succéder des métaphores plus biologiques, la naissance, l'évolution d'un système, la mort d'un système, etc., etc. D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut dire que ces métaphores qui ont sous-tendu la création ont succédé à quoi avant? Comment se sont succédées ces vagues de métaphores, quoi, irrationnelles?
Bah, on pourrait dire qu'au XVIIIe siècle, ce que supporte le concept de philosophie naturelle, c'est l'idée d'une harmonie naturelle, donc d'un rapport normal et privilégié entre ce que l'on pense, du côté des philosophes, ce que l'on construit comme objectivité, comme on dit maintenant, du côté scientifique, et puis la forme de société que l'on souhaite, qui est la dimension politique, des Voltaire, des Montesquieu, ils travaillent ensemble, hein, Diderot, d'Alembert, même Rousseau à la limite, hein, pourquoi pas. Bon, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble qui se voudrait naturellement harmonieux. Ça, ça craque. Ça va craquer au cours du 19e siècle. D'ailleurs, c'est là qu'on va voir apparaître, justement, les critères de type industriel qui ne sont plus seulement des critères marchands, mais qui sont des critères de production. À ce moment-là, c'est l'efficacité qui va prévaloir. Et l'efficacité, à notre échelle, est effectivement relativement mécanique. Enfin, mécanique en un sens très, très large, physicaliste, même si l'électricité n'est pas un mécanisme, c'est quelque chose d'autre. Mais disons, on a une maîtrise complète possible de l'objet. C'est plus le sentiment d'harmonie, c'est vraiment l'objet que l'on maîtrise. Et puis, ceci va être remis en question parce que ça ne permet pas de rendre compte du vivant en particulier. Le vivant qui a une forme d'autonomie, une forme de spécificité en ce que ses lois de fonctionnement s'appuient sur le physique mais ne s'y réduisent pas, va poser un problème énorme qui va être dit en termes... Comment ?
Vitaliste.
Oui, bien sûr, ça va être la naissance du vitalisme, hein, du finalisme biologique, etc. Alors, du coup, les grands financements qui jusque, disons, à la moitié du XXe siècle étaient des financements dans les domaines de la physique et de la chimie, ça va glisser. Et depuis la moitié du XXe siècle, on voit des financements de plus en plus importants du côté biologique. D'ailleurs, les recrutements dans le domaine de la recherche, les recrutements dans le domaine de l'université, se font plus du côté biologique que du côté physique, actuellement.
L'Institut Pasteur.
Pas seulement, l'INSERM, tous ces domaines. Le mouvement de la recherche actuellement qui a lieu, Sauvons la recherche, eh ben, c'est un mouvement qui est animé par les biologistes au départ. Hein, alors que dans les années 50, les mouvements contestataires de la recherche étaient la physique. Donc là, on voit bien le glissement qui s'opère.